Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Et c'est d'abord l'actualité de votre samedi. C'est encore et toujours la petite Mia, enlevée mardi dans les Vosges et introuvable, tout comme sa mère, qui pourrait avoir commandité le rapt de l'enfant. Elle n'avait plus la garde de sa fille de 8 ans. Et c'est elle qui aurait minutieusement préparé le scénario en faisant appel à 4 hommes arrêtés depuis à Paris, en Ile-de-France et en Meurthe-et-Moselle. 4 individus, Alice Moreno en garde à vue et assez bavard d'ailleurs face aux enquêteurs.
Oui, ces ravisseurs présumés au profit anti-système reconnaissent et revendiquent même l'enlèvement de la petite Mia qu'ils qualifient d'extraction et d'exfiltration. Certains de ces suspects étaient déjà dans les radars du parquet antiterroriste sous la surveillance de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure depuis plusieurs semaines. Dans des échanges, ils évoquaient des projets d'enlèvement d'enfants pour les soustraire à l'État et à de pseudo-réseaux pédophiles. Toujours dans ces messages, ils suggéraient des projets d'attaques contre des cibles très diverses, des bâtiments publics, des centres de vaccination. C'est ce que confirme une source proche de l'enquête à RTL. Ces individus sont proches de la mouvance survivaliste, complotiste. Lors de perquisitions au domicile de l'un d'eux, des sachets de poudre et une recette qui pourrait être celle d'un mélange explosif ont été retrouvés. Les gardes à vue de ces 4 individus pour enlèvement de mineurs en bande organisée pourraient durer jusqu'à demain. Ils encourent dans cette affaire la réclusion criminelle à perpétuité.
Information et récit RTL signé Alice Moreno. Vous entendrez ce matin sur RTL la colère d'un maire, celui de Mélan en Isère. C'est dans la banlieue de Grenoble, un élu qui s'oppose à la construction d'une église intégriste de 300 places sur sa commune. La justice a validé le projet, comme à Albertville, pour un dossier d'école musulmane turque. Le maire de Mélan demande donc que l'État se mobilise pour interdire cette construction, car la loi sur le séparatisme a été mise en place pour freiner ceux qui combattent les racines ou les valeurs de la République. Fin de citation. L'autre grand titre de l'actualité nous conduit ce matin outre-Manche, où la reine et le Royaume-Uni font leurs adieux ce samedi au prince Philippe, décédé la semaine dernière à 2 mois de ses 100 ans. Il aura servi sans relâche la couronne et épaulé Elisabeth II pendant plus de 7 décennies. Une cérémonie en comité restreint pour cause de pandémie et aux accents militaires se tiendra à Windsor. Harry a fait le déplacement des États-Unis pour les funérailles que les Britanniques sont invités à suivre à la télévision. Le duc d'Édimbourg, qui chaque année participait à 300 fonctions officielles, coupant des rubans et inaugurant à tout va, face au photographe, Marie Billon, d'ailleurs un photographe en particulier.
Scott Collier a son magasin atelier à quelques centaines de mètres de Buckingham Palace. Il a photographié plusieurs membres de la famille royale. Dans quelques semaines, il devrait immortaliser le tout dernier arrière-petit-enfant de la reine. Et à plusieurs reprises, il a photographié le prince Philippe, notamment en janvier 2014.
Il devait inaugurer un immense portrait de son épouse la reine. Avant qu'il n'arrive, les hauts gradés militaires présents se sont mis d'accord sur qui le saluerait en premier. Quand il est arrivé, tout le monde se tenait prêt, mais il fonce vers le portrait, tire la ficelle pour le dévoiler et demande « Où est le bar ?»
C'était typique du prince qui n'aimait pas les simagrées et leur préférait l'efficacité, comme en 2015 à Buckingham Palace, Scott s'occupait alors des lumières.
Le photographe essayait de placer tout le monde et ça se trouve facilement sur Internet. Tout à coup, il dit « Prenez cette satanée photo ». Sauf qu'il a dit le gros mot, pas satané. On ne peut qu'aimer encore plus quelqu'un de si direct.
Pour avoir aussi photographié la reine, Scott la trouve beaucoup plus patiente.
Merci Marie. On va vous retrouver dans 10 minutes en direct de Windsor pour mesurer l'ambiance sur place à l'occasion de ces obsèques du prince Philippe. En bref, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont apporté hier leur soutien au président ukrainien et appelé Moscou à retirer ses troupes à la frontière avec l'Ukraine afin d'œuvrer rapidement à une désescalade dans un contexte très volatile. Des affrontements depuis 2014 dans le Donbass qui ont fait plus de 13 000 morts. Le virus à présent et une fête qui fait désordre en pleine épidémie. Ça s'est passé le week-end dernier dans les locaux de l'internat de l'hôpital de Toulouse. Une grosse cinquantaine de personnes, internes et praticiens de l'établissement de Rangueil, se sont donc retrouvées pour une fiesta immédiatement condamnée par la direction du CHU de la Ville Rose. Une enquête administrative est ouverte. Et pendant ce temps-là, le nombre de malades du Covid-19 en réanimation dépassait hier les 5 900 personnes. Chiffre stable depuis une semaine. 309 patients sont morts ces dernières 24 heures, alors que sur le front de la vaccination, 12 millions de Français ont reçu au moins une injection de vaccin. De quoi satisfaire le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Nous avons vacciné, c'est symbolique, mais c'est fort, 100% ou quasiment 100% des résidents des maisons de retraite médicalisées ont reçu une première dose de vaccin. Les trois quarts ont reçu leurs deux injections. Et la vaccination chez les soignants aussi a beaucoup progressé dans notre pays. Nous atteignons 80% de soignants âgés de 50 ans et plus qui ont bénéficié d'au moins une injection de vaccin. Et plus des deux tiers des soignants, tous âges confondus, se sont fait vacciner au moins une première fois et nous gagnons 1% de plus chaque jour. C'est tant mieux parce que nous savons que cette vaccination, c'est le moyen, c'est la clé pour pouvoir sortir de cette pandémie.
Et à partir de ce samedi, ce sont les enseignants, les policiers, les gendarmes de plus de 55 ans qui rejoignent la catégorie des prioritaires pour cette vaccination. Notez que la Guadeloupe serre la vis face à une augmentation de cas. Couvre-feu avancé dès ce samedi soir de 22h à 19h. Fermeture des restaurants à partir de 7h précisément. Idem pour les cinémas, les théâtres et les musées. Et dès lundi, on passera en demi-jauge pour les élèves dans les collèges et les lycées. Le gouvernement, une nouvelle fois au chevet des agriculteurs, pas épargné ces derniers temps par les épisodes de gel. Les températures négatives de ce début avril ont provoqué, vous le savez, des dégâts considérables chez les viticulteurs, les arboriculteurs. Du coup, Jean Castex, le chef de Matignon, et Julien de Normandie, son ministre de l'Agriculture, se déplacent dans le sud. Aujourd'hui, trois étapes, trois départements, des visites de parcelles sinistrées et des échanges avec des professionnels dans l'Hérault, dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales où les vignes ont été impactées et où les fruits devraient manquer cet été. Patrick Tégéraud a passé un coup de fil à Bruno Villa, président de la commission fruits et légumes de la FRSEA Occitanie.
Il va y avoir une sous-offre par rapport à la demande de certains produits qui pourraient effectivement faire remonter la valeur de certains produits qui feraient défaut. Que les produits se vendent cher, c'est aussi nécessaire pour les producteurs et ceux qui récolteront moins. Tout va dépendre aussi des marges qui sont prises par les distributeurs. Il faut aussi qu'on fasse attention sur les questions de francisation, c'est-à-dire certains opérateurs sans scrupules qui pourraient faire passer des produits étrangers pour produits français. Vous achetez un produit étranger, vous le faites rentrer en France, vous le réemballez, vous mettez une étiquette française dessus. C'est illégal. C'est des choses qui peuvent se reproduire de façon plus importante des années où il peut manquer de produits et de produits français.
C'est un sujet qui déchaîne les passions. Les menus végétariens à la cantine ont à nouveau animé les débats hier à l'Assemblée nationale. Durant l'examen en première lecture du projet de loi climat, les députés ont voté ce qui était pour l'instant une expérimentation, l'obligation de proposer au moins une fois par semaine un tel menu aux élèves. L'Assemblée qui a eu une pensée pour un ancien ministre de Jacques Chirac, Éric Raoult, décédé hier à l'âge de 65 ans à l'hôpital de Saint-Denis près de Paris. Ses obsèques auront lieu la semaine prochaine au Rincy, une ville dont il fut maire pendant près de 20 ans. Vous restez bien avec nous, il est 7h08, bon réveil. Dans un instant, la suite du journal. On vous emmène au cœur de la Défense, le quartier d'affaires parisien, avec une première station-service 100% électrique. A tout de suite.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
À 7h10, la suite du journal sur RTL nous conduit dans le quartier d'affaires de la Défense aux portes de la capitale avec une petite révolution, une première dans le réseau Total. L'entreprise pétrolière a décidé de convertir sa station-service du site en 100% électrique. Adieu le sans-plomb, adieu le diesel, cette station reconvertie, c'est pour le mois de juin, Arnaud Touche, racontez-nous.
Coincé entre les tours en verre du quartier d'affaires, il ne reste que le toit de la station-service désormais en plein chambardement. Jusqu'ici, les cuves remplies d'essence étaient en sous-sol, mais elles seront très vite retirées, comme le détaille Didier Probst du département ingénieur chez Total.
L'énergie ne vient plus effectivement d'énergie fossile, elle viendra du transformateur et des bornes de recharge.
Les traditionnels pistolets à essence viennent d'être enlevés et d'ici le mois de juin, elles seront remplacées par au moins 6 bornes de recharge et le comportement des clients va évoluer.
On l'a anticipé, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, un temps de plein d'un véhicule classique, c'est entre 3 et 7 minutes. Un temps de charge électrique peut aller de 15 minutes jusqu'à potentiellement 45, voire une heure.
L'entreprise imagine déjà mettre des petits salons dans ses boutiques pour patienter le temps de la recharge. Et cette station nouvelle génération n'a pas été choisie par hasard.
Je pense aux VTC, je pense aux taxis, et puis je pense aussi à tous les gens qui travaillent ici, à la Défense.
Pierre-Emmanuel Brédin, directeur du réseau Total en France, a choisi de convertir ses stations dans les zones de faible émission, comme à Paris.
Fin 2024, plus de diesel, fin 2030, plus d'essence, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y aura plus de thermique sur ces zones-là. C'est notre rôle de suivre le mouvement.
Et le groupe va convertir 90 stations comme celle-ci en électrique d'ici 2023.
Merci Arnaud. Arnaud Touche du service éco de RTL dans la série des changements. Le Rassemblement National va déménager son siège direction l'ouest de Paris et la porte de Saint-Cloud en particulier, où un étage indépendant servira à la campagne présidentielle de sa leader Marine Le Pen, laquelle a baptisé les lieux la Capitainerie. À gauche, on se réunit et on se parle ce samedi à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot. Ce sera dans un hôtel de l'Est parisien avec sur la table 2022 et les envies d'Élysée. Anne Hidalgo sera là, Olivier Faure, le patron du PS également, Éric Coquerel représentera les Insoumis, Yann Brossat les communistes, le but étant de déboucher sur un pacte de non-agression. Les sports et le football, 33e journée de Ligue 1 et Lille qui a grillé son joker hier soir, le LOSC tenu en échec sur son terrain par Montpellier, un but partout et deux points de perdu dans la course au titre. Paris n'est qu'à 4 longueurs avant d'affronter demain Saint-Etienne. Les joueurs du Nord, longtemps menés par les Héraultais, sont revenus au tableau d'affichage dans les ultimes minutes. Une soirée délicate pour l'entraîneur lillois Christophe Galtier.
Le but bien construit de Montpellier nous a assommés et a rendu l'équipe désunie, désorganisée. Et puis après, en deuxième période, les choses ont un peu changé. On est arrivé à jouer plus haut. On a quand même le bonheur d'égaliser parce que c'était aussi très important. Mais on a bien fini le match avec voilà, une emprise sur le jeu, en évitant Montpellier de ressortir et de construire, en mettant beaucoup de pression sur la défense adverse. Malheureusement, on n'a pu marquer qu'un but.
L'entraîneur du LOSC avec Samuel Duhamel pour RTL au menu de ce samedi. Deux rencontres, Angers-Rennes. Attention, le coup d'envoi c'est 12h45 et Marseille-Lorient ce sera à 17h. Débrief complet dans Orphée le match sur RTL à 18h30 et dans la foulée avec RTL Foot. Le rugby et le top 14, il y avait un match hier soir, la victoire de Pau face à Bayonne 43-33. Un résultat de la 21e journée qui envoie le bon dernier du classement Agen en Pro D2. Sans jouer, relégué, les Agenais qui comptent 20 défaites en autant de rencontres cette saison. Le judo et un coup de chapeau à Amandine Buchard qui a décroché hier la médaille d'or au championnat d'Europe disputé à Lisbonne. Elle est depuis bientôt 3 ans la reine de sa catégorie des moins de 52 kilos et donc elle est prête pour les JO de Tokyo dans 97 jours. Et puis le tennis à Monte-Carlo, le roi Nadal dominé sur sa terre battue préférée. L'Espagnol sorti hier en quart de finale en 3-7 par Rublev, le jeune russe, qui affrontera dans le dernier carré le Norvégien Rude, alors que le Grec Tsitsipas sera opposé au Britannique Evans. Vous avez toute l'actu évidemment sur l'appli RTL, c'est quand vous le souhaitez. D'ailleurs...